Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC. RMC, 19h-20h, Bartoli Time, Alex Biggerstaff, Sarah Pitkowski.
Salut tout le monde, un Bartoli Time assez spécial aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de points à aborder, notamment le tournoi de Monte Carlo. Et oui, Stefanos Tsitsipas l'a emporté et on est avec Sarah Pitkowski aujourd'hui. Salut Sarah.
Salut, est-ce que je peux t'appeler Alex?
Mais bien sûr.
Parce que si on essaie
on le dit dans le jingle même.
Si on essaie de nous appeler par nos noms de famille, ça va être compliqué.
Mais je pense qu'on peut être super fort au Scrabble tous les
ouais,
deux.
Oui, absolument. Non, on a beaucoup de points d'avance.
Plus fort que Marion et JC, ça je sais.
C'est clair. Ils ont que des consonnes simples et des voyelles.
Sarah, on va évidemment revenir parce que c'est la une de Bartoli Time sur la finale du tournoi de Monte Carlo. Tout à l'heure, Stefanos Tsitsipas, le grec, revient en forme après un début de saison raté. Il a battu le Norvégien Casper Ruud. On va en parler dans un instant aussi avec le directeur du tournoi, David Massé, parce qu'on va parler d'arbitrage électronique. Et oui, le tennis est en pleine révolution. On en parle dans un instant. La Bartoli à la folie aussi, c'est tout à l'heure avec du basket. Victor Wembanyama, ça y est, c'est officiel, a fini sa première saison NBA. Absolument incroyable. On fera le bilan dans quelques instants. Et puis Bartoli Baston, évidemment, le rugby. Ouf, Toulouse a sauvé l'honneur français, Sarah.
Oui.
Victoire face à Exeter. C'était mal embarqué.
Oui.
Mais finalement, ça passe très très bien. On a un club français en demi-finale et un peu le spécialiste au final.
Oui, finalement, c'est celui qui est le mieux sorti des poules. Et donc, il a tenu son rang. Et avec la manière sur la deuxième mi-temps qui a été époustouflante.
Voilà.
Du côté des Toulousains.
On y croit.
Ah bah on y croit, ah,
on
absolument,
y croit
on y croit.
On y croit fort avec Antoine Dupont, évidemment. Voilà,
et
c'est
Romain
le beau programme.
Tamac.
Et Romain Tamac qui est revenu, on va en reparler. C'est le beau programme qui vous attend pendant une heure dans Bartoli Time. C'est parti. Et avant de passer à notre premier thème du jour de Bartoli Time, évidemment, vous le savez, on est à une centaine de jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et RMC crée l'événement. Demain, Emmanuel Macron sera l'invité exceptionnel d'RMC et BFM TV de 8h20 à 9h. À 100 jours du début des JO, le président répondra en direct aux questions d'Apolline de Malherbe, de vous les auditeurs d'RMC et puis de nos consultants des Jeux Olympiques, David Douillet, Marion Bartoli et Rémi Boulet d'ailleurs. Si vous voulez poser vos questions au président sur la sécurité des JO, la cérémonie d'ouverture, les transports ou ses ambitions pour nos athlètes, bref, toutes les questions pour vous, une adresse, tout attaché, vos questions à rmc.fr. Évidemment, ça marche toujours, le 32-16 pour poser vos questions au président demain matin de 8h20 à 9h. Événement exceptionnel sur RMC. Puis ce qui est exceptionnel aussi, c'est qu'on vous fait gagner des jeux. Mercredi prochain, nous serons à J-100 des Jeux Olympiques et nous vous offrons 100 places sur RMC. Dès aujourd'hui, dans chaque émission, on va pouvoir remporter ensemble 2 places pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques. Cérémonie d'ouverture, finale du 100 mètres, judo, tennis de table, natation et bien plus encore. La liste, elle est interminable. Sarah, envoyez en tout cas Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16 pour être l'heureux gagnant tout à l'heure à 19h45. Allez-y. Jouez, on est avec vous de tout cœur. C'est parti pour Bartoli Time et la une de Bartoli.
Stefanos Tsitsipas qui s'impose pour la troisième fois à Monte Carlo en 4 éditions après 2021 et 2022. Stefanos Tsitsipas, vainqueur de l'édition 2024. Le grec s'impose face à Casper Ruud en 2 manches.
RMC. La une de Bartoli Time.
Sarah Pitkowski. Alors, pour le grand public, on n'attendait peut-être pas Stefanos Tsitsipas, vainqueur du tournoi de Monte-Carlo aujourd'hui. Mais pour les spécialistes, bah oui, on le sait, c'est un spécialiste lui-même de la terre battue. Après un mauvais début de saison, il prouve qu'il revient en forme peut-être au meilleur des moments.
Oui, même en fin de saison dernière, il était sorti du top 10. On le trouvait totalement absent de ses matchs, trouvant pas mal d'excuses
et là, il a fait qu'une bouchée de Casper Ruud.
Absolument.
6-1, 6-4, 1h38 minutes de jeu.
Un match à sens unique. Et Tsitsipas qui est vraiment monté en puissance pendant ce tournoi. Il a repris confiance et vraiment sur la ligne de départ, j'aurais pas donné Tsitsipas au rendez-vous ce dimanche. Il a fait un match solide et en revanche Casper Ruud, il a vraiment un souci en finale. Hein. Il avait déjà deux finales depuis le début de l'année. Il s'incline pour la troisième fois en finale. Il n'est pas là en finale. Il n'arrive pas à jouer ces matchs-là. Donc Tsitsipas tranquille lui a marché dessus véritablement. C'est pour ça que je dis un match à sens unique. Trop facile et ouais. Peu de résistance en fait. Il a essayé de se battre au deuxième, mais 1 et 4, c'est pas ce qu'on attendait.
Mais tu sais quoi, on a un témoin unique évidemment de cette finale remportée par Stefanos Tsitsipas. C'est l'invité de Bartoli Time aujourd'hui. Bonjour, David Massé, directeur du tournoi de Monte-Carlo. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RMC dans Bartoli Time.
Bonjour, c'est un plaisir.
Merci d'être avec nous parce qu'on a eu franchement un tournoi de Monte-Carlo encore une fois rempli de surprises, c'est peu dire. On va tout en parler évidemment dans les prochaines minutes, mais d'abord un petit mot de votre part, David, sur le vainqueur du tournoi, Stefanos Tsitsipas. C'est vrai que tout le monde attendait déjà la venue de Nadal, il a déclaré forfait, tout le monde attendait Carlos Alcaraz, il a dû déclarer forfait aussi à son tour. Novak Djokovic battu, le numéro 1 mondial en demi-finale, et oui, c'est Stefanos Tsitsipas sous vos yeux donc qui a remporté pour la troisième fois de sa carrière le tournoi de Monte-Carlo. C'est un habitué.
Oui, exactement ça, mais il adore ici, il joue extrêmement bien. On a vu qu'il était en forme, il était très, on va dire, focus sur le titre. C'est un joueur qui a montré déjà qu'il est capable de gagner ici. Il a gagné, bien sûr, son troisième fois ici. Et c'est vrai que c'est difficile de gagner une seule fois déjà. Donc, le fait qu'il a gagné deux, mais non seulement deux, mais trois maintenant, c'est énorme. Il y a très peu de joueurs dans l'histoire du tournoi. C'est le plus ancien tournoi sous terre battue au monde. Et là, on a juste les noms qui partagent le même record. C'est Nadal, Björn Borg, Thomas Muster, Ilie Nastasi. Donc, tous ces joueurs sont vraiment partie de l'histoire. Et donc, on peut vraiment dire que Stefanos Tsitsipas, c'est pareil. Donc, il va être vraiment connu comme un grand joueur ici.
David Massé, bonjour, c'est Sarah Pitkowski. Monte-Carlo, c'est le coup d'envoi de la saison sur terre battue en Europe. On vient observer les joueurs, on vient regarder les forces en présence. Vous étiez donc aux premières loges durant toute la semaine. Selon vous, votre avis, quels sont les joueurs qu'il va falloir suivre là dans les prochaines semaines sur terre battue, avec comme le disait Alexandre, Nadal et Alcaraz forfait, Djokovic qui est plus tout à fait dominateur comme sur les 15 dernières années. Si vous deviez nous donner vos pronos et les joueurs à suivre, quels seraient-ils?
C'est vrai qu'on voit déjà ici, une fois qu'un joueur joue bien ici, très souvent on voit la même chose à Roland Garros. C'est l'histoire montre ça. Donc on peut attendre de grandes choses de Tsitsipas déjà, mais je crois qu'on peut attendre aussi de grandes choses déjà de Casper Ruud qui a joué très très bien à Roland Garros. Je pense que si on voit la forme de Yannick Sinner, mm-hmm. je crois qu'il était fatigué à la fin. Il a beaucoup joué, il a gagné beaucoup beaucoup de matchs depuis septembre. C'est un joueur qui est, on va dire, mieux classé en termes de cette année. Si on voit le race de Turin,
oui.
Il montre que c'est lui qui gagne tous les gros titres. Pour l'instant, on va voir qu'est-ce qu'il va faire pour la suite. Je crois qu'il va prendre une semaine de repos et on va voir qu'est-ce qu'il va faire à Madrid. Mais c'est énorme qu'est-ce qu'il a fait déjà cette année et je crois qu'il va maintenir cette forme.
Vous faites bien de parler de Yannick Sinner, David Massé, parce qu'on va devoir parler quand même de cette demi-finale de Yannick Sinner et puis ce point donc qui a beaucoup fait parler, qui a qui a tout simplement fait parler sur ce thème-là, l'arbitrage électronique, dans le tennis, va devoir arriver prochainement. Et je crois, si je ne me trompe pas, vous me le dites, David Massé, que vous confirmez la disparition des juges de ligne en 2025 pour le tournoi de Monte-Carlo, donc l'intronisation de cet arbitrage électronique qui est censé régler tous ces débats et ce qui s'est passé en demi-finale entre Yannick Sinner et Tsitsipas.
Oui, c'est acté. Donc, on sait que l'ATP Tour, il va imposer à partir de 2025 que tout le tournoi passe en electronic live calling. Et c'est d'un côté, je suis triste parce que c'est quand même partie de l'histoire de tennis. Et de notre côté, on a choisi de maintenir les juges de ligne. Et je sais que c'est parfois difficile de voir un point comme ça, comme hier, difficile, ça peut changer le match. Je comprends bien pourquoi l'ATP Tour souhaite basculer sur un système électronique pour vraiment éliminer le côté l'erreur humaine. À la fois, c'est la tradition, c'est aussi... on peut dire que le juge de ligne... Ils viennent de loin, c'est très, très compétitif pour être sélectionné. Et je peux dire que globalement ici, ça a bien passé. Ils font beaucoup de matchs avant de venir ici. Donc, est-ce que l'arbitrage de futur va changer? Je suppose que oui, parce que c'est quand même le chemin pour arriver à la chaise à la fin. Donc, à voir comment ils vont gérer ça pour le futur.
Oui.
Moi, j'estime que c'est dommage, mais à la fois, on est bien sûr prêt à évoluer et installer le système électronique.
David Massé, le directeur du tournoi de Monte-Carlo, l'invité exceptionnel de Bartoli Time. Sarah, on peut apporter un peu plus d'informations encore par rapport à ce basculement à l'arbitrage électronique,
oui,
que l'on voit déjà d'ailleurs sur d'autres tournois, évidemment.
Exactement. Vous le savez, David, sur dur, la technologie est déjà utilisée. Alors, sur terre battue, on pourrait penser qu'elle n'est pas utilisée encore de manière assez fréquente parce qu'on a la marque, parce que c'est une surface vivante et qu'il y a la marque sur la terre battue, mais ce n'est pas seulement ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui la technologie de l'arbitrage vidéo n'est pas juste une photographie de la balle qui tombe, c'est un certain nombre de caméras qui sélectionnent les images et qui font une analyse pour reproduire effectivement l'impact de la balle. Et sur terre battue, aujourd'hui, la technologie, elle n'est pas validée, en tout cas pour pouvoir l'utiliser sur des tournois professionnels. Et c'est donc pour ça qu'elle n'est pas encore utilisée sur terre battue. Et David, vous avez dit quelque chose qui est très intéressant sur lequel je voulais revenir. Vous disiez, et c'est là qu'à terme les problèmes vont peut-être se poser, c'est que si on enlève tous les juges de ligne, comment allons-nous trouver le juge de chaise? Puisque le juge de chaise, qui est donc l'arbitre référent d'un match, il a commencé par être juge de ligne. Donc, à un moment, comment la boucle va pouvoir continuer et comment on va pouvoir avoir des juges de ligne sur une chaise d'arbitre si on n'a plus du tout de juge de ligne?
Oui, tout à fait, je suis d'accord. Donc, je pense que ça va évoluer, bien sûr, mais je pense qu'ils vont faire... Ils vont toujours maintenir les juges de ligne sur les tournois, on va dire, de niveau challenger et peut-être future. Je ne sais pas pour le Grand Slam, parce que ce n'est pas l'ATP Tour non plus. Donc, à voir s'ils vont maintenir aussi dans les plus gros stades au monde. Pour l'instant, je crois que... En tout cas, c'était le chemin. On prend l'exemple d'aujourd'hui. Le chef d'arbitre d'aujourd'hui, c'était un grand arbitre française. Damien, il a commencé comme juge de ligne.
Tout à fait.
Je crois qu'il est mieux maintenant à cause de ça.
Ben oui.
Donc, ils vont s'adapter, ils vont évoluer. Mm-hmm. C'est important que le sport aussi visionne le futur. Donc, on va voir le changement. Déjà, je sais que la pandémie, le Covid, a vraiment, lancé le Roka Live. C'était la façon d'éviter moins de gens sur site pour éviter la contamination de Covid. Et donc, c'était validé vraiment avant que ça soit vraiment testé. Mais je crois que ça montrait que c'était une façon d'arbitrage où les joueurs sont d'accord. Il n'y a pas de question. Donc ça devient un peu on va dire, automatique. Et de ce côté-là, le joueur, je crois qu'il préfère ça que le côté humain à la fin. Et encore une fois, je comprends pourquoi on arrive à ce point-là. Je trouve un peu dommage, mais je comprends pas pourquoi on arrive.
Il y a d'ailleurs ces propos il y a 3 ans à Novak Djokovic qui disait il n'y a aucune raison de garder les arbitres de ligne. C'est assez violent au final comme déclaration, mais on voit David, Sarah, que les sports en général, tous les sports tendent à aller vers la vidéo et à robotiser notre façon aussi de juger, d'arbitrer le sport. Mais est-ce vraiment une si bonne solution de tuer un peu l'essence, l'âme du sport en lui-même à la base?
Disons que le principal souci de l'inquiétude d'un athlète ou d'un sportif, c'est effectivement l'arbitrage ou le chronomètre. C'est-à-dire qu'il est rassuré dans sa tête si effectivement il sait que sa performance, elle va être jugée, qualifiée de manière la plus précise possible. Sinon, on peut vite perdre confiance. Et d'ailleurs, Yannick Sinner, avec cette faute d'arbitre, dit avec beaucoup de sang-froid en conférence de presse, il dit « Peut-être que c'est là que ça a fait basculer le match. J'ai eu un coup de fatigue, j'ai eu des crampes. » Donc en fait, si le sportif qui est naturellement dans une situation d'incertitude, puisqu'il est en train de performer, si on peut lui assurer une assurance concernant un arbitrage, ça le soulage, je pense que ça aide aussi dans la concentration. Et je suis aussi pour une forme de... Il y a un scénario sur un cours, c'est comme une pièce de théâtre, un terrain de tennis. Et je pense que les arbitres font partie du décorum. C'est sûr qu'un terrain de tennis avec juste un juge de chaise et deux joueurs ou deux joueuses, l'image, elle va être un peu plus triste. En tout cas, il va manquer quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut trouver un entre-deux. Il faut trouver un entre-deux, mais je suis pas sûre qu'on soit capable de prendre, enfin, en tout cas, la décision qu'on va prendre, elle aura forcément des conséquences et des incidents sur la suite. Et franchement, la décision n'est pas facile à prendre.
Ben justement, dernière question, hein, David Massé. Est-ce que l'arbitrage électronique au tennis, c'est pas la révolution de trop, ou la révolution, en tout cas, qui va pas forcément dans le bon sens?
Encore une fois, je pense que le système a bien montré que c'était peut-être la meilleure façon de l'arbitrage. On a vu déjà depuis 2020 que c'est le cas. Je pense, est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'on peut peut-être faire plutôt un review, un peu comme ils font sur le rugby, où il y a une façon de contrôler avec le replay? Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait facilement faire, oui. Mais on garde toujours le côté humain. Donc, on prend l'exemple de hier, on pourrait arrêter le jeu un moment, voir le replay et décider qu'est-ce que c'est le bon jugement. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà sur les autres sports. Et je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on peut aussi appliquer ici. Mais c'est acté, c'est déjà le cas que l'ATP Tour impose ça, et on comprend pourquoi. C'est difficile d'imaginer deux systèmes en parallèle, donc il faut aller dans un sens, et je pense que, en tout cas, nous sommes prêts à faire ça.
Ouais, intronisation pour 2025. Donc merci beaucoup David Massé, directeur du tournoi de Monte Carlo, d'avoir été avec nous, l'invité exceptionnel de Bartoli Time. Merci beaucoup David.
Merci beaucoup.
Merci.
Sarah, dans un instant, on continue de parler tennis. Évidemment, on va être avec Eric Salio, qui a couvert évidemment le tournoi de Monte Carlo pour RMC, pour revenir sur la victoire de Stefanos Tsitsipas. Le Grec revient en forme après un début de saison compliqué, peut-être au meilleur des moments. On va tenter d'y répondre dans un instant, juste après une courte respiration. A tout de suite dans Bartoli Time.
RMC Bartoli Time. Alex Biggerstaff. Sarah Bitkowski.
19h21 sur RMC, on est ensemble dans Bartoli Time. On va continuer de parler de tennis, évidemment, avec le tournoi de Monte Carlo et la finale. En une, c'est Stefanos Tsitsipas, le Grec, qui s'est imposé 6-1, 6-4 en 1h38 tout à l'heure face au Norvégien Casper Ruud. Et Eric Salio, qui a couvert le tournoi pour RMC, est en direct avec nous, avec Sarah Pitkowski dans Bartoli Time. Bonsoir, mon cher Eric Salio.
Bonsoir.
Je suis très heureux de réentendre ta voix, si tu savais.
Oui, il paraît qu'il y a des petits soucis. On a raté la balle de match, en fait. Oui.
Mais bon, on sait que c'est Tsitsipas qui l'a emporté. Tu as entendu juste avant le débat avec David. David Massé. Juste pour dire à tout le monde, hein, vous êtes là à réagir sur Direct Studio aussi, en direct dans Bartoli Time, avec notamment Ben qui nous dit tous les arbitres ont commencé sur les lignes sans arbitre, plus de jeu. On nous dit aussi les gamins qui seront jamais pros, leur rêve est d'être sur les lignes à Roland. Voilà, l'arbitrage électronique, hein. Eric Sarah qui évidemment fait débat dans Bartoli Time.
Oui, mais je vais vous confier une petite anecdote. D'ailleurs, je l'avais dit à l'antenne avec Sarah. Ce matin, au moment du débat dans les grandes gueules, il y avait les juges de ligne, donc ils sont une vingtaine ici, qui se prenaient en photo sur le central à 10h du matin. Et je pense qu'il y avait beaucoup de nostalgie parce que c'est leur récompense de l'année. Mmh. Quand vous êtes parmi les meilleurs juges de ligne de France, vous savez que vous avez une chance d'être juge de ligne dans un Masters 1000 à Monte Carlo et évidemment à Roland-Garros. Donc c'est un petit rêve qui s'écroule pour eux parce que, comme l'a dit David, l'ATP a pris sa décision, donc tous les tournois, y compris sur terre battue.
Attention à la technologie. Moi, j'ai discuté avec Pascal Maria tout à l'heure.
Il y a une marge d'erreur. Tu as raison.
Oui, mais sur la terre battue, elle n'est pas encore validée. Hein.
Foxten a fait de. Enfin, faut savoir qu'il y a eu un appel d'offres qui a été fait. Donc, on va citer les sociétés. Il y a Okai et Foxten. Foxten s'appuie sur des caméras. Okai, c'est un peu plus différent, c'est plus subtil. Et Foxten, apparemment, serait plus fiable. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui vont avoir le contrat, mais en tout cas, ça se joue entre ces deux entreprises.
C'est le petit jeu aussi qui commence. Hein.
Ouais. Donc, mais maintenant, là, j'en discutais avec David il y a quelques secondes. Que va faire Roland Garros? Parce que Sarah, on le sait, il y a une vraie politique de formation de juges de ligne.
Ça repose le tournoi de Roland-Garros, effectivement, porte aussi toute la politique fédérale, qu'elle soit celle des joueurs, mais celle des clubs. Et dans les clubs, il faut aussi des arbitres et des juges de ligne. Donc la décision, elle est vraiment pas évidente à prendre parce qu'elle va avoir à moyen terme et à long terme, elle va avoir des conséquences qu'il faut absolument anticiper maintenant.
Et c'est une question qui reviendra évidemment sur RMC, notamment dans Bartoli Time. Mais autre question, Eric et Sarah, c'est que va faire Stefanos Tsitsipas à Roland-Garros maintenant? Parce que Monte-Carlo dessine peut-être un peu les contours.
Il est mieux lancé qu'il y a quelques semaines déjà.
Hein. Et ouais, du deuxième grand chelem de la saison qui arrive. Il n'avait pas très bien commencé la saison, hein, le Grec quand même, avec des éliminations prématurées. Il avait mal fini aussi. Et puis là, il profite bien sûr aussi des forfaits d'Alcaraz, bon, de la défaite de Sinner, mais il est là, en fait, peut-être au meilleur moment pour lui, parce qu'on le sait, c'est un aficionado de la terre battue, Tsitsipas.
Il adore ça, et je sors de sa conférence de presse, il avait la banane, parce qu'il avait grand besoin d'un tel titre, parce que il y a huit semaines, il était sorti du top 10. Et pour un garçon comme Tsitsipas, qui a un ego assez fort, c'était une grosse claque. Donc ça y est, là, on sait qu'il va réintégrer le top 10. Il sera numéro 7 lundi. Au passage, un petit coup de chapeau à Hugo Humbert, qui sera numéro 13. Oui. Ça devient intéressant. Donc pour lui, oui, ça le revanche totalement. Il va aller à Barcelone, normalement.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on est certain qu'il va pas...
Son papa nous a dit qu'il ferait un point ce soir, effectivement, pour voir comment il est. Bon, il débuterait que mercredi, donc ça lui laisse le temps. Puis c'est un tournoi qu'il aime bien, il a déjà fait finale. Mais non,
ça y est, il se repositionne. Carlos Alcaraz, lui, sera forfait, hein, pour Barcelone.
Ouais. Et le grand événement, c'est mardi à 16h, Rafa Nadal. Peut-être qu'on en parlera dans quelques jours. Mais oui, il se relance totalement. De toute façon, c'est l'un des plus beaux terriens du circuit. Puis là, j'ai l'impression qu'il a, comme son père l'a dit, il était dans la zone. Il a fait des choses, Sarah, qu'il faisait peut-être pas avant. C'est-à-dire très agressif, beaucoup de services volés.
Oui.
Donc là, il a.
Et les revers en ligne aussi, splendide.
Ouais, il a une nouvelle palette et voilà, ça prouve qu'il faut toujours progresser, parce que si tu ne progresses pas, tu recules, et c'est ce qui lui était arrivé. Donc là, je pense qu'on peut le placer parmi les gros outsiders du tournoi, d'autant que Alcaraz est inquiétant avec sa blessure à l'avant-bras. Nadal, point d'interrogation. Sinner, est-il vraiment prêt pour la terre battue? Je pense que oui, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Il a un physique qui est peut-être plus fragile que celui de Tsitsipas.
Donc, à un bon mois de Roland-Garros, vous êtes tous les deux en train de me dire, en fait, que c'est la terre du suspense, la terre battue de Roland.
Et je dirais qu'on n'est pas loin d'être sur un Roland-Garros qui est beaucoup plus ouvert que ces 15 dernières années. Hein.
En sachant que Nadal peut prendre un gros dès le premier tour. Il ne sera pas protégé au tirage au sort.
Eric, avec tout l'amour qu'on peut lui porter, toute l'admiration qu'on peut lui porter, même s'il a un bon tableau, ça me semble de l'ordre de l'irrationnel d'imaginer Nadal pouvoir tenir plus d'une semaine sur un tournoi. Il a joué 3 matchs en 15 mois. Et tu as vu les images, c'est-à-dire que là, il a perdu 15 kilos, il a des jambes de moustique, il a des bras, on dirait des allumettes. Et c'est là, je dis, est-ce que, enfin, que se passe-t-il ? Et c'est difficile à dire, mais est-ce qu'il ne faut pas se résigner à penser qu'il est en train de faire une petite tournée d'adieu ?
C'est marrant
d'adieu,
parce que j'ai posé la question à Stefano Tsitsipas sur comment il était curieux de voir Nadal. Oui. Alors lui, il dit, mais attends, Nadal, ça reste le challenge ultime sur terre battue. Ouais. Et puis, il a peut-être des allumettes, mais il a collé 6-1 à Rublev, un set d'entraînement quand même. Hein.
Oui, alors est-ce que Rublev est le bon joueur actuellement?
Ça prouve que bon.
Tu as raison.
Reste.
Tu demandes à Rublev de te faire sparring et de jouer contre toi. Je pense qu'en ce moment c'est le bon mec à jouer pour te donner
quand
confiance.
Même, 6-1.
Oui.
Ouais, non, mais moi je suis très impatient de voir ce que ça va donner mardi. On rappelle qu'il jouera un Italien, Flavio Coboli, et derrière il pourrait jouer Alex de Minaur. Donc tout de suite il aurait un test. Non, ça va être une semaine très sympa là pour Barcelone.
On va suivre ça de très très près, évidemment, avec toi Eric Salio sur RMC et avec Sarah Pitkowski également.
On dit un mot de l'équipe de France de
tout rapidement, c'est une déception.
Qui s'est incliné contre l'Angleterre et qui va devoir retourner en barrage pour se sauver dans le groupe mondial à l'automne prochain, et c'est très dommageable.
Ouais, c'était hier et malheureusement
une grande déception.
Ouais, c'est loin d'être une bonne nouvelle, évidemment, cette défaite de la France face à la Grande-Bretagne à la Fed Cup. On va passer au basket dans quelques instants dans la deuxième partie de Bartoli Time, Bartoli à la folie, mais juste avant, en Allemagne ils sont en train de fêter quelque chose, nos amis voisins allemands, puisque le Bayer Leverkusen, c'est officiel, après avoir remporté son match cet après-midi 5-0 face au Werder Bremen, 29e journée de Bundesliga, et bien pour la première fois depuis 2011-2012, une autre équipe que le Bayern Munich est championne d'Allemagne, et c'est entièrement mérité, évidemment, pour le Bayer Leverkusen
mais
de Xabi Alonso, invaincu encore. Et oui, c'est absolument dingue. Voilà, c'est tout simplement bravo aux hommes de Xabi Alonso. Le Bayer Leverkusen champion d'Allemagne, donc c'est officiel à l'instant. Victor Wembanyama, ça arrive, c'est dans la deuxième partie de Bartoli Time. Dans un instant, restez bien avec nous.
RMC, jusqu'à 20h.
Bartoli Time, Alex Biggerstaff, Sarah Pitkowski.
Et on est ensemble dans Bartoli Time, encore pour une petite demi-heure. Et après le tennis, Bartoli à la folie, c'est pour du basket et Wemby.
Right back to Victor. Oh, Wemby in the paint, drops it in. Yeah, what are they going to do there when he gets to that place? Jones to Victor. And the dunk from Sidy Sissoko. Victor for three. A three. Goodness gracious. He is on fire.
Another one.
Yes, sir. How about a Wemby?
RMC, Bartoli, à la folie.
Et oui, une saison de folie de Victor Wembanyama. Vous venez au 32-16 pour témoigner de tout ce que vous avez vu cette année pour la première saison NBA de la star française Victor Wembanyama. Ça y est, sa saison est finie. Sarah Pitkowski, on va en débattre tout de suite avec le correspondant d'RMC à San Antonio. Il est en direct avec nous dans Bartoli Time. C'est Olivier Fulpin. Salut Olivier.
Salut Alex, bonjour Sarah.
Salut.
Merci d'être avec nous pour débriefer ce qui est une première saison, ça y est, dans les pattes de Victor Wembanyama. On va préciser qu'il ne jouera pas ce dimanche face aux Pistons de Détroit, le dernier match de la saison. Il est préservé au niveau de sa cheville par le coach Greg Popovich.
Ouais, non, c'est malheureux pour tous les fans français, parce que le match a lieu dans 2 heures et vous auriez eu le grand bonheur de voir San Antonio Détroit à la télé, de vous pincer, de vous dire c'est de la NBA. Non, c'est le fond du panier. Même si les Spurs depuis 10 matchs ressemblent vraiment à une équipe de basket, et c'est ça qui est très plaisant à San Antonio, c'est que San Antonio qui a vraiment vraiment galéré toute la saison à essayer de mettre des choses en place autour du phénomène Victor est en train de se développer une équipe. Ce qu'on peut, on peut pas dire la même chose de Détroit. Voilà.
Il n'est jamais trop tard pour lancer sa saison. 21 victoires, 60 défaites. Bon, il y en aura peut-être une 22e ce soir pour éviter peut-être aussi de finir dernier de la conférence Ouest pour les Spurs de San Antonio. Mais Sarah, avant toute chose, un petit mot sur comment tu as vécu toi cette première saison de celui qui était attendu comme un phénomène. Et c'est ça la chose la plus difficile qu'a confirmé qu'il était un phénomène.
Il y a eu une saison en deux temps, puisque c'est vrai que la première partie de saison, c'était, C'était difficile à juger parce qu'effectivement, les Spurs enchaînaient défaite sur défaite. On sentait que le coach Popovic cherchait des solutions. Et puis nous, ici, on commençait à essayer de... En tout cas, on essayait de créer des petites questions, des petites polémiques. Mais est-ce qu'il va tenir sur la saison? Est-ce que est-ce qu'il est à la hauteur? Et puis après, à partir de, je crois que c'est à partir de février ou mars, il a eu un temps de jeu qui était un peu plus important.
Rookie du mois de janvier, février et mars à l'Ouest, il les a enchaînés.
Et là, ça a été la confirmation de l'extraordinaire talent de Victor. Et je pense que ces stats, Olivier, tu vas pas me mentir, et c'est la question que j'ai envie aussi de te poser, les stats de Victor cette saison avec ses moyennes de toutes ces moyennes, on le situe où dans la hiérarchie des plus grands joueurs de la NBA quand ils sont arrivés en tant que rookie? Est-ce que c'est des stats, allez, standard,
on rappelle, plus de 21 points, plus de 10 rebonds et presque 4 passes en moyenne par match et presque 3,6 contre aussi?
Non, mais c'est, on en parlait justement au début de saison avec Stephen Brun. Donc, on se disait, il va nous faire une saison à 20 et 10. J'ai glissé ça à Victor il y a quelques semaines et il m'a fait un petit regard du style, ah bon. Et finalement, il est monté à 21,5 à l'arrivée. Oui. Il est pas loin de 11. C'était sa façon à lui de dire, non, j'ai pas de limite. Mais ce qui est vrai, c'est que, Il y a eu des changements dans la saison. Popovic, comme tu l'expliquais, a essayé de trouver une ossature, enfin surtout essayer de comprendre ce qu'il avait entre les mains avec Victor. Et ça prend du temps parce que des joueurs comme ça, il y en a pas. Et donc quand il a remis toutes les choses en place dans un système un peu plus, j'allais dire crédible, c'est pas le mot que je veux dire, un système un peu plus solide, un peu plus espéré, ben les choses sont mises à tourner vachement mieux au niveau des stats avec Victor. Et ce qui est sûr, c'est que quand il n'a pas été sélectionné au All-Star Game, il nous avait annoncé à partir de maintenant tout est personnel, tous les matchs, il va vraiment faire l'effort et il l'a fait. Il est passé, là j'ai les stats sous les yeux, je vais essayer de pas vous dire de bêtises, il est passé de 20 points et 10 rebonds de moyenne et 3 passes et 3 contre avant le All-Star Game à 23,5, 12 rebonds, 5 passes, quasiment 5 contre.
Il
y a eu un clic.
Ouais.
Il a été piqué au vif, mais il a aussi été repositionné en tant que 5, ce qui fait que ça a vachement aidé et que ses coéquipiers, match après match, ont fini par comprendre qu'ils avaient de l'or en barre et qu'il était temps de mettre son ego dans sa petite poche, quoi. Voilà.
Olivier Folpin, correspondant RMC, est avec nous dans Bartoli Time pour parler de Victor Wembanyama et de cette première saison NBA. Justement, Olivier, tu as posé une question hier en conférence de presse à Victor Wembanyama. Tu lui as demandé s'il avait passé un cap. On en parlait tout à l'heure avec peut-être ce changement au mois de février. On écoute sa réponse à l'international français.
Je m'imagine souvent jouer contre moi-même il y a 6 mois, il y a 1 an. Et bien sûr qu'il y a une évolution énorme. Et je pense que j'ai un petit peu progressé dans tout, mais plus dans certains aspects. Mais je pense que la progression est satisfaisante. Et maintenant, il ne manque plus à ce que ça se caractérise par des victoires. Mais je suis content de l'évolution. Rien que le playmaking, être plus agressif, mais aussi physiquement, quand je vois des images d'il y a 1 an par exemple, et c'est bon, franchement une multitude d'aspects.
Olivier, Sarah, on pourra balancer toutes les stats qu'on veut sur Victor Wembanyama. Au final, ce qu'on entend le plus à travers ces mots, c'est que c'est un garçon qui a grandi. Et qui a grandi simplement.
Oui, pas en taille.
Qui a grandi en talent. Qui a grandi en talent encore. Donc, cette question dans le Bartoli Time, le Bartoli à la folie, Victor Wembanyama, est-ce une première saison au-delà des espérances? Les réponses sont.
Je dirais oui. Largement oui.
Complètement, j'entends Olivier.
Complètement. Oui. Non, je voulais être poli, mais complètement. Il a. Encore une fois, il faut vraiment qu'on se rende compte de France, déjà de France, qu'on a. Un joueur extraordinaire, il faut pas avoir peur de le dire parce que de temps en temps être trop cocardier c'est pas bien. Ça va devenir le meilleur joueur de l'histoire du basket français si ça l'est pas déjà, parce qu'il a pas assez gagné bien évidemment. Mais ça pourrait être beaucoup plus que ça. Ça pourrait être très bien le meilleur joueur de l'histoire du basket. Il a démontré des choses cette année que personne n'a jamais vu. Même des vieux de la vieille comme moi, même des plus vieux qui ont vu la NBA depuis les années 70, on n'a jamais vu ça, ce qu'il fait. Je veux pas abreuver les fans de stats.
Dans quel aspect? Parce que effectivement, là, on a parlé des stats, mais sur l'impact défensif, il est juste exceptionnel.
C'est ça justement. Je pense que l'image qu'on peut garder, c'est ce qu'on a vu plusieurs fois, Olivier, cette saison, et tu vas nous le confirmer. C'est des équipes adverses. Oui, tu nous entends, Olivier. Des équipes adverses qui sont en contre-attaque face à San Antonio. Wembanyama est seul en défense. Ils n'osent pas marquer.
C'est peut-être
ça le plus parlant, ce qui symbolise l'avènement Wembanyama.
Non, mais c'est clair, c'est qu'il est en train de réinventer le basket tel qu'on le connaît, quoi. On n'a jamais vu un joueur être aussi grand, aussi mobile, aussi technique. Et en plus, il est pas bête, hein, le garçon. Il progresse en permanence. Popovic a très, très souvent souligné qu'avec lui, et c'était aussi une petite pique pour d'autres joueurs de son équipe, tu lui dis les choses une fois, quoi. Et c'est enregistré à tout jamais, quoi. Et il refait pas l'erreur. Et c'est ça qui est fantastique. Là, je voulais juste te dire, avant de vous avoir perdu, c'est que, il y a une stat qui est absolument fantastique, ça s'appelle le PER, je vais vous la faire à la française, le Player Efficiency Rating.
Okay.
Ce qui veut dire qui mesure un petit peu
l'évaluation,
tout ce que le joueur fait sur un terrain individuellement. Une évaluation, voilà. Et une évaluation donc sur ça qui, par rapport au rookie, à l'exception du grand Will Chamberlain qui avait atteint 20.2, voilà, David Robinson, Michael Jordan. Et puis après, on a Wembanyama. Donc, c'est le quatrième de l'histoire, c'est déjà. Pour un type qui arrive d'un autre pays, qui n'a pas connu vraiment, en plus, le sport américain comme les autres, c'est inouï, quoi.
Moi, j'ai une dernière question, Olivier. Que va-t-il se passer dans la programmation de Wemby, puisque donc il joue pas les playoffs et que ses prochains rendez-vous, c'est effectivement avec l'équipe de France. Je crois qu'il y a bien deux mois et demi.
Le 16 mai, Vincent Collet annoncera la liste pour les JO.
Que va-t-il faire? Où va-t-il s'entraîner?
Bah, pour l'instant, tu vois, justement, donc on va l'avoir dans la semaine pour tout savoir. Mais d'habitude, il a un entraîneur avec qui il va shooter beaucoup à Dallas. Donc il a prévu. De toute façon, ils avaient dit qu'il allait bosser là-dessus. Puis après, il allait retourner en France. J'ai pas les dates. On les aura très très bientôt. On aura tout ça. Mais il est clair que les Jeux Olympiques, ça va être le grand tournant très très rapidement. Ça arrive, quoi.
Préparation de l'équipe de France le 17 juin, voilà. On me précise. Premier match amical le 3 juillet à Rouen face à la Turquie.
Non, mais il faut en profiter parce qu'on peut penser que les Spurs vont se retrouver en play-off très très souvent à partir de maintenant. Peut-être pas la saison qui vient, mais à partir d'après, ça va.
Ouais, dans la boîte,
ça va nous rappeler des choses.
Il va falloir vite monter, hein, parce qu'ils partent de loin là quand même.
En tout cas, c'est ce qu'on peut lui souhaiter avant évidemment un été de rêve en bleu avec l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Olivier Folpin, d'avoir été avec nous dans Bartoli Time, correspondant pour AMC à San Antonio et qui a suivi la saison extraordinaire de Victor Wembanyama, Sarah du basket. On va passer à l'Ovalie dans quelques instants parce que Toulouse a sauvé l'honneur de la France tout à l'heure en Coupe d'Europe. Victoire face à Exeter. Wilfried Templier est dans les starting blocks pour nous en parler dans quelques instants. À tout de suite.
RMC Bartoli Time. Alex Biggerstaff. Sarah Pitkowski.
Et la dernière partie de Bartoli Time, c'est Bartoli Boston. Ça tombe bien, on va parler rugby Toulouse en demi-finale de la Coupe d'Europe. Oui, monsieur.
La qualification à l'instant ici en terre girondine à Chamandelmas des Harlequins qui s'impose au terme d'un match complètement fou face à l'UBB. Le score final 42-41.
Ils étaient revenus à 10 points les Rochelais avant de rentrer au vestiaire et puis derrière cette deuxième mi-temps c'est un supplice. 40-13, c'est pas terminé, ouais. Mais ça y est, c'est terminé, 40-13, 5-1, il n'y a pas eu de match.
Le relais de Flamand qui n'a pas pu capter ce ballon, Romain Tamac qui peut transmettre à qui? Qui évite Woodburn et qui peut écarter Blair. Woodburn magnifique avec Paul Coste maintenant, l'accélération, le feu. Oh que c'est beau. Et le relais
de cet essai.
Oh ça c'est Toulouse. Jeu de main, jeu de Toulousain, que c'est beau.
RMC Bartoli Baston.
Et ça a bastonné fort, ça a bastonné sévèrement entre Toulouse et Exeter. 9 essais toulousains, 64-26. Sarah Pitkowski, on accueille Wilfried Templier dans Bartoli Time. Salut Wilfried.
Messieurs, dames, bonsoir.
Ah, salut Wilfried.
Quel plaisir de t'entendre là aussi également, mon cher Wilfried.
On a passé une chouette après-midi.
On a eu légèrement peur dans les toutes premières minutes, sauf que le rouleau compresseur est arrivé juste un peu en retard en fait.
C'est ça, jusqu'à la mi-temps, parce que le Stade Toulousain ne mène que d'un point à la mi-temps, 17 à 16, a même longtemps été mené par cette équipe d'Exeter, qui a fait forte impression dans cette première période. Et puis, tout d'un coup, en deuxième mi-temps, ils ont explosé, les Anglais. En 20 minutes, ils ont pris un 28-0. 4 essais, Kinghorn acquis, un doublé de Kinghorn acquis à nouveau Kinghorn. Et donc, ça, voilà, on est passé d'un score. Ils étaient encore au contact, les Anglais. 17-19 pour le Stade Toulousain, pour eux, 24-19 pour le Stade Toulousain. Et après, on est passé à 45-19 à l'heure de jeu, où là, il n'y avait plus personne. Et puis, où le Stade Toulousain, quand il est comme ça, il est assez irrésistible. Parce qu'ils ont réglé leurs problèmes dans le jeu au sol. Et puis les Anglais, peut-être, ils n'ont pas tenu la distance. Et puis à un moment, le bras de fer. Parce que c'était un vrai combat de boxe. Comme ces matchs de phase finale de Champions Cup auxquels on a assisté ce week-end. Alors, il y a des Irlandais et des Anglais qui l'ont remporté. Mais aujourd'hui, c'était pas le cas des Anglais d'Exeter. Mais ce moment était vraiment. Enfin, les Toulousains ont été irrésistibles. Je propose d'écouter le capitaine Antoine Dupont là-dessus, sur ce pop-corn qu'ont fait les Anglais et le pop-corn pour les spectateurs toulousains dans les tribunes.
Ouais, après, il faut arriver à pas tomber non plus dans une euphorie où on peut se jeter ballon dans tous les sens et on peut prendre une interception. Un ou deux essais casquettes, c'est vite arrivé, on peut vite se faire peur. Là, ça nous a quand même beaucoup réussi, on s'est vite trouvé. Je pense qu'il y a eu aussi quelques, peut-être, errances défensives de leur part qui nous ont permis de breaker plus facilement. Et une fois qu'on est dans l'avancée, après, c'est toujours plus facile. Mais oui, c'est sûr que quand on a cet état-là sur le terrain et que tout nous réussit, il faut arriver à en profiter, mais à rester quand même aussi froid pour pas trop en faire.
Il pondère le capitaine toulousain parce que c'est pas fini en fait, l'aventure est pas finie, hein. C'est voilà, il y a une demi-finale, on va en parler, contre les Harlequins, et puis peut-être une finale derrière. Mais le parcours du Stade Toulousain dans cette Coupe d'Europe, ça fait deux ans qu'ils font pas assez bon parcours en poule et qu'ils finissent en demi-finale au Leinster à se déplacer. Là, ils ne voulaient pas cette année, c'est-à-dire que là ils ont joué deux matchs à Ernest Vallon, et le prochain ce sera dans trois semaines contre les Harlequins au Stadium de Toulouse. Ils ont battu Cardiff 52-7, ils ont gagné aux Harlequins 47-19, ils ont gagné en Ulster 48-24, ils ont battu Bath 31-19 et le Racing la semaine dernière 31-7, avant de mettre aujourd'hui un 64-26 à Exeter. Ça, voilà, je sais pas ce que ça vous fait dire, messieurs.
Ça fait dire que c'est d'une logique implacable, c'est-à-dire qu'ils sont ils sont en pleine bourre, ils sont extraordinaires en Coupe d'Europe, et finalement il y a
pas tant de miracles. Ensemble aussi.
Oui, il y a pas tant de miracles. On va comparer avec la grande déception de La Rochelle, c'est que finalement si tu es en place dans tes matchs de poule, tu te protèges forcément derrière dans les tirages au sort, et il y a comme une forme de logique effectivement derrière ça, où tu retrouves la meilleure équipe en demi-finale, en tout cas la meilleure équipe française en demi-finale. Moi j'ai une question, Wilfried, par rapport à un joueur qui me semble peut-être être le facteur X pour aller chercher peut-être deux trophées, que ce soit le bouclier et le titre de Champions Cup, en la personne de Romain Ntamack. Parce que commencer une saison sans un joueur comme ça et finalement le récupérer, qui doit avoir une envie, mais ça doit être...
Une fraîcheur,
une envie, il peut peut-être bien faire la différence pour faire un super doublé pour le Stade Toulousain, non ?
C'est ce qu'on se disait après le match. En fait, le Stade Toulousain a joué son 8e de finale face au Racing et son quart de finale face à Exeter avec Romain Ntamack à l'ouverture et l'Écossais Blair Kinghorn à l'arrière. Blair Kinghorn a été excellent aujourd'hui, 20 points, 2 essais, 100% au pied. Donc là, tu me parles de Romain Ntamack. C'est vrai que il y a Thomas Ramos qui s'était blessé après le tournoi au bout de 3 minutes à l'UBB au Matmut, qui revenait aujourd'hui. Et Hugo Mola avait expliqué au moment de la compo d'équipe qu'il accordait beaucoup d'importance à la dynamique, aux joueurs qui avaient œuvré en huitième, en quart, voilà. Et donc il a remis aujourd'hui Ntamack et Kinghorn. Alors tu me parles d'Ntamack, mais c'est vrai, ça va être un argument pour Toulouse, surtout avec une charnière internationale avec Antoine Dupont. Mais quand vous avez Kinghorn à l'arrière, on se dit ils ont gagné. Voilà, t'es sportif, tu connais la dynamique. Ils ont gagné le huitième et le quart avec Ntamack à l'ouverture et Kinghorn à l'arrière.
pourquoi changer,
comment enlever un des deux.
Bien
et
sûr.
C'est ce que, pour vous dire, pour l'effectif Stade Toulousain, comment on fait ? On a Thomas Ramos et on pourrait, un grand buteur comme ça, c'est le laisser
sur le banc. Un choix de riche, ça.
C'est incroyable. Donc oui, Romain Tamac revient, va faire du bien au Stade Toulousain, mais il y a des joueurs que Jack Willis, le troisième ligne anglais aujourd'hui, a marqué les esprits. Il y a François Cross. Enfin voilà, c'est la constellation toulousaine qui est le dernier représentant des clubs français et qui bat des records en gagnant en demi-finale. On sait que Toulouse a le plus de Coupes d'Europe, a 5 Coupes d'Europe. Mais aujourd'hui, c'est la 6e demi-finale de Champions Cup consécutive pour le Stade Toulousain, pour vous dire la constance de ce groupe. Et c'est la 16e demi-finale dans l'histoire du club. Personne n'a fait mieux, que ce soit la 6e demi-finale de suite ou la 16e demi-finale dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Donc voilà, maintenant Hugo Moulin nous a dit oui, des demi-finales c'est bien, c'est pas ce qu'on veut, nous on veut collectionner les trophées. Donc voilà, on va avoir un match incroyable contre l'Harlequin en demi-finale.
On peut terminer rapidement avec une dernière question avec toi, Wilfried. C'est tout simplement, quel bilan pour les clubs français à la sortie de ce week-end, parce que on l'a dit tout à l'heure, ouf, Toulouse a gagné, parce que sinon malheureusement on était parti pour un week-end totalement noir. Hein.
Bah on est un peu déçu, hein, on est un peu déçu, on peut pas le cacher, hein, qu'il y ait un club français, il y en a deux anglais et une province irlandaise. On est un petit peu déçu parce que l'UBB, bah voilà, surtout l'UBB avait été pas loin de battre l'Harlequin. On pensait l'UBB capable d'aller dans le dernier carré. Donc La Rochelle, Leicester,
finalement, il n'y a pas de surprise. Un français en finale.
Et en plus, voilà, ça voulait dire un Français en finale, ça voulait dire Toulouse-UBB en demi-finale. Ce ne sera pas le cas, ce sera Toulouse-Harlequins d'un côté, et de l'autre côté, Leinster qui jouera à Croke Park à Dublin, le stade de Croke Park contre Northampton. Et évidemment, ce que Hugo Mola ne veut pas, il a dit, tout le monde imagine une finale Toulouse-Leinster. voilà, on est à 80 minutes de ça, ce n'est pas encore fait, mais ça pourrait être un feu d'artifice. Mais déjà, il faut passer les Harlequins, quand vous avez vu le match qu'ils ont fait à Bordeaux, 42-41, cette victoire incroyable. Ça va, je parlais de popcorn, ça va peut-être le programme. On rappelle popcorn pour le 5.
Eh ben
le
c'est 5, réservé, écoute.
Ouais, le 5 mai, c'est ça. Dimanche 5 mai.
On t'attend en cuisine pour le popcorn, Wilfried Templier. Et merci beaucoup d'être passé dans Bartoli Time. Et on suivra évidemment merci Toulouse en Coupe d'Europe en demi-finale qui affrontera les Harlequins. Merci Wilfried Templier. 19h55 sur RMC, Sarah Pitkowski. Il est temps de faire gagner. Et oui, une auditrice ce soir d'RMC. Bonsoir Alice.
Bonsoir RMC, bonjour.
Est-ce que vous savez évidemment pourquoi on vous appelle?
Oui, apparemment j'ai compris que j'avais le droit d'aller voir les JO à Paris.
C'est une excellente réponse. Alice, vous nous appelez d'où?
De Bordeaux.
De Bordeaux.
Donc le week-end a été compliqué sportivement parlant, donc ça finit bien le week-end.
C'est une meilleure nouvelle, vous faites partie des gagnants des 100 places RMC. Alors, une question maintenant, vous choisissez entre deux épreuves et dans Bartoli Time ce soir, je vous propose soit deux places pour assister au 8e quart et demi-finale d'escrime le 2 août à Paris, soit deux places pour assister à la finale de basketball féminin le 11 août à Paris. Quel est votre choix, Alice?
Alors là, c'est une très bonne question. Le 2 ou le 11, ben, ça sera peut-être le... Aïe. Je vais faire l'escrime. Ah, ben, c'est mon conjoint qui décide avec moi.
Ah oui, c'est important.
Bon, on va dire le
basket.
Ah d'accord.
Le basket, donc le 11 août,
on aura aussi des médailles, hein.
Finale de basket féminin. On espère qu'on aura des médailles partout de toute façon.
Oui, mais les trois jours en escrime, c'est tu vrai. Vas forcément
c'est
voir
sûr,
des Français.
C'est sûr, voilà. C'est sûr. Mais bon, ça sera le basket pour Alice, la gagnante des 100 places RMC du soir. Bravo à vous, deux places
merci
pour
beaucoup.
Assister à la finale de basketball féminin le 11 août à Paris. Bravo Alice et merci d'avoir été avec nous dans Bartoli Time. Tout comme un grand merci à Sarah Pitkowski
merci
de m'avoir accompagné pendant 7 heures, évidemment, de Bartoli Time. La soirée ne fait que commencer avec vous sur RMC, c'est la Ligue 1 qui reprend dans un instant. J29, énorme match qui vous attend dans l'after avec toute l'équipe autour de Jean-Louis Tour. C'est Lyon face à Brest. Là aussi, il y a du suspense. On vous souhaite un excellent match, une excellente soirée sur RMC.